Oui, j'attendais, si vous voulez, la chanson finalement. J'attendais, et vous m'attendiez, puis moi j'attendais Georges en fait. Mais si on est chaud, il y aura peut-être un petit karaoké sur Quand on est con, on est con. Ouais.
Allez, je me lance.
Non, Stéphane, là vous n'êtes pas encore chaud. On vient de commencer. Bonjour Stéphane.
Oui, vous avez raison, Mathieu. Gardons le meilleur pour la fin. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans cette spéciale anarchiste. Qui me ressemble tellement.
Oui, c'est sûr, oui. Et vous êtes comme un poisson dans l'eau, Stéphane, mais pas autant que nos personnages du jour.
Oui, on réunit d'anarchistes artistes qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui auraient certainement bien aimé pourtant. À commencer donc par celui qu'on célèbre aujourd'hui, Georges Brassens, l'artiste engagé qui aurait fêté ses 100 ans et qui a revendiqué ses idées anarchistes en chanson, ce qui lui a parfois valu une mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Puis lui aussi a exprimé ses idées, c'était sur les tableaux qu'il peignait, des paysages formés par des milliers de petits points de peinture réalisés par un homme qui a tenté de mettre un gros coup de poing dans la figure de la société dans laquelle il vivait. Je vous raconte le peintre anarchiste Paul Signac. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un anarchiste plus contemporain, moins sérieux aussi.
Comment ça, moins sérieux? Je ne vous permets pas. Entarter des gens est un art, Stéphane. Je vous raconte le destin militant et engagé de l'inventeur du concept de l'attentat pâtissier, Noël Godin, dit le gloupier, connu pour s'en être souvent pris au philosophe Bernard-Henri Lévy, sa cible favorite. Vous n'avez jamais été entarté, Stéphane?
Non.
Eh bien, ça vous définit bien, parce que vous savez, il n'entarte que les gens qui se prennent au sérieux. Or, ça prouve que quand on vous connaît, on sait que vous ne vous prenez pas au sérieux. Certainement, il n'a jamais décidé de vous cibler pour ça.
Non, et pourtant, je l'ai rencontré, il était très sympathique.
Ben oui,
il est alors, avec nous, comme chaque jour, eux aussi sont... Vous savez, ce sont des gens très respectables, qui ne se prennent pas trop au sérieux. Mmh. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde et dans celui qu'on célèbre aujourd'hui en particulier, Georges Brassens, j'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et oui, bonjour messieurs, bonjour à tous, parce que les femmes furent une source d'inspiration majeure pour Georges Brassens. Eh bien, je vous emmène à la rencontre des différentes femmes qu'il a croisées dans sa vie. Il y a eu justement à Sète, dans sa ville natale, en 2017, une exposition intitulée Brassens et les femmes à l'ombre de son cœur, eh bien, qui retraçait le portrait des différentes femmes qu'il a aimées. Donc c'est une galerie de portraits au féminin que je vous emmène visiter tout à l'heure.
Mmh. Avec David Castel-Lopez, eh bien, nous remontons aux origines d'une invention. Et ouais. Aujourd'hui, c'est le service militaire, c'est
oui,
ça
le service militaire.
La conscription.
Oui, voilà, je pense que je suis une des seules personnes en France qui regrette de ne pas avoir fait son service militaire. Ouais. Oui, je vous en parlerai. Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle faille psychologique qu'on va découvrir chez vous?
Pourtant, vous n'êtes pas de l'alphabet.
Non, non. Si quelqu'un a fait son service militaire ici?
Quelqu'un aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait.
Oui.
Moi, c'était après.
Non, j'ai été
oui,
exempté.
Oui,
exempté
oui.
Pour des problèmes psychologiques.
Bien sûr,
évident. Nous tous sommes là.
Olivier Poul, c'est avec nous, Stéphane.
Et bien, je rendrai moi aussi hommage à Georges Brassens en chantant peut-être que je vous donnerai la recette de la tielle de Sète.
Hein, ça me paraît tout en apnée.
Ah oui.
Ouais, c'est pas mal.
La recette, ça rime avec Sète.
Ouais, ouais.
Et Sète, c'est la ville de Georges Brassens.
Et cette spécialité qui est la tielle de Sète.
Est-ce que c'est bon au moins?
C'est délicieux.
Enfin, ce sera comme chaque jour le moment le plus anarchique de l'émission, Burn to be Alive. Ce quiz où tout est bordélique, des questions au règlement lui-même. Quiz spécial Brassens, évidemment, aujourd'hui. Rendez-vous vers 5h-10. En attendant, partons à la rencontre de notre premier anarchiste du jour. Il a mauvaise réputation, il s'est fait tout petit auprès de son arbre. Pour lui, c'était les copains d'abord, la chanson juste après, où il disait pouvoir mourir pour des idées. Ses idées à lui, libertaires, il les a défendues toute sa vie. Une vie qui a commencé il y a tout juste 100 ans. Stéphane Bern nous raconte l'artiste anarchiste Georges Brassens.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Savez-vous, Mathieu, pourquoi le 28 juin 1946 fut une journée importante pour Georges Brassens?
Je vais réfléchir, voyons voir. Alors, on est en 46, on
ne cherche pas. Il ne s'agit pas d'un concert ou de la sortie d'un disque. À cette époque, Brassens, 25 ans, n'est pas encore le chansonnier que nous connaissons et ne possède même pas de guitare. Ce jour, voyez-vous, est important car il est celui de la parution d'un texte qu'il a envoyé quelques semaines plus tôt, sans trop croire à sa publication, au journal Le Libertaire. Le Libertaire est une gazette à la ligne éditoriale bien tranchée puisqu'elle est depuis le 19e siècle et sous diverses formes un organe du mouvement anarchiste. Son article, à tendance pamphlétaire contre la police, se retrouve en troisième page, aux côtés de considérations sur Kafka ou sur la déréliction annoncée de l'économie française. Quand il en découvre, à sa grande surprise, la publication, le jeune Brassens est fier que sa prose soit reconnue et qu'elle participe à porter les idées qui sont les siennes. Plusieurs articles suivront, un jour signé Charles Berens, l'autre J.O. Cédille, mais jamais Georges Brassens. En ce printemps 1946, Brassens vient d'adhérer à la Fédération anarchiste et participe activement aux réunions de l'antenne du 15e arrondissement de Paris. Ses convictions libertaires se sont forgées dès l'enfance comme une propension quasi naturelle à contester un certain ordre établi. Né dans un quartier populaire de Sète en 1921, Georges Brassens grandit entre une mère fervente catholique et un père anticlérical. Peut-être cette contradiction a-t-elle construit très tôt un esprit critique qui lui fera préférer les joies de la poésie à celles du catéchisme. Ou l'euphorie des virées avec les copains d'abord plutôt que celle des bancs de l'école. Virée qui le mène d'ailleurs à se confronter dès ses 17 ans à une institution qu'il prendra un malin plaisir à vilipender plus tard, la police. La religion, l'école, l'État, la justice, dès sa jeunesse, Georges Brassens prend bien soin de s'extirper de tous ces carcans pour assumer sa liberté de penser ou de jouer avec les mots. À 18 ans, Brassens s'installe à Paris, d'abord chez sa tante, puis chez un couple ami à elle, Marcel et Jeanne Planche, dont il partagera le modeste logis dans une impasse du 14e arrondissement durant de longues années, développant une relation unique avec ce couple de gens simples et bons dont il vantera les vertus dans ses chansons.
La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie.
À Paris,
par la façon qu'elle le donne, son pain ressemble à du gâteau et son nom à du vin comme deux gouttes d'eau.
Pleine Deuxième Guerre mondiale, le travail est rendu obligatoire par l'occupant nazi.
La Jeanne, on la paie quand on...
Théo, en Allemagne. Mais il s'organise avec ses copains pour terminer plus tôt et se consacrer à la lecture et l'écriture. Une année dans le camp lui laisse le temps de nouer de solides amitiés et de réfléchir à un autre monde possible. La libération, dont les excès de l'épuration le scandalisent, ouvre sur une nouvelle ère dans laquelle tout est à refaire. Le contexte politique et intellectuel est effervescent. Partout, on veut proposer, s'engager, bâtir ou déconstruire. Je ne faisais rien, j'étais disponible pour tout, y compris le pire, dira-t-il plus tard. Le communisme est alors un projet souhaitable pour beaucoup, mais Brassens ne se retrouve pas dans cette doctrine de la masse égalitariste. Il a, en revanche, rencontré des militants anarchistes, a lu les auteurs qui ont théorisé ses idées, Proudhon et Kropotkine notamment, et se sent proche de cette mouvance qui place la liberté individuelle au centre des réflexions. Il est convaincu qu'il faut abandonner toute forme de domination et d'autorité dans l'organisation sociale, qu'il faut repenser la solidarité et recréer du lien entre les individus en dehors des institutions. Brassens et ses camarades prônent une approche intellectuelle et joyeuse, conscients que le changement doit d'abord s'opérer au niveau des individus et de leurs pensées. Georges vit d'ailleurs en marge du monde, aux côtés de Jeanne et Marcel, sans eau courante, sans électricité, sans argent. L'inconfort n'est pas une misère, mais une certaine façon de se libérer des contingences matérielles. Il se contente de voir les amis, d'écrire des poèmes et de refaire le monde. En 1946, Brassens et ses amis créent une revue pour diffuser leurs idées libertaires, mais le projet n'ira pas plus loin qu'une première maquette. C'est au même moment qu'il adhère à la Fédération anarchiste et se décide à écrire l'article, qui sera donc publié dans Le Libertaire. Les portes du journal s'ouvrent. Il y travaille pendant plus d'un an comme correcteur et contributeur, rédige moult articles qui viennent nourrir une réflexion commune. Mais dans la rédaction, l'aspect collectif, les petits chefs et l'orientation de plus en plus communiste lui déplaisent. Il a voulu s'engager, s'est questionné sur les moyens de faire advenir les idées qu'il défend. Là, il se retrouve face à des contradictions, peut-être même une impossibilité de l'action, ne croyant, selon ses mots, ni en la vertu du peuple tout seul, ni en la vertu de l'État qui le guide. Brassens prend ses distances avec le libertaire en même temps que son souhait de vivre de sa poésie et de sa musique s'affirme. Il écrit ensuite pour le bulletin de la Confédération nationale du travail, syndicat à tendance anarchiste et révolutionnaire, ce qui lui vaut d'être un temps surveillé par les renseignements généraux. Mais il a déjà glissé vers une autre forme d'engagement. De plus en plus sceptique, il est désormais décidé à oublier les articles pour ne plus écrire que des chansons. Au tournant des années 50, Georges Brassens auditionne dans des cabarets. Après quelques échecs dus à la fois à son trac, mais aussi à ses interprétations hasardeuses, il commence à trouver son style, rencontre le succès, enregistre des disques et donne des concerts dans des salles de plus en plus importantes, jusqu'à l'Olympia, en 1954.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Cette réussite ne lui fait pas oublier ses convictions, puisqu'il se produit lors de galas de la Fédération anarchiste. C'est par ses chansons que Brassens fait désormais passer ses idées. Son anti-militarisme, par exemple, dans La mauvaise réputation, clamant son indifférence face à la gloriole soldatesque, ou son aversion pour une justice pratiquant la peine de mort dans la célèbre Gare aux Gorilles.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux Gorilles.
Dans la chanson « Hécatombe », il compte avec malice les mésaventures de la maréchaussée sur le marché de Brive-la-Gaillarde, où un gendarme éreinté par de séditieuses ménagères en vient à crier « Mort aux lois, vive l'anarchie ». Ses positions irrévérencieuses, toujours affichées avec humour, froissent certains, enthousiasment les autres et participent sûrement de son succès, même si, en ces temps où l'État surveille les ondes, ses chansons jugées trop subversives ne passent pas à la radio. Il faut attendre 1955 et la création d'une nouvelle radio privée que l'on connaît bien, Europe numéro 1, entendre Brassens dans les postes à travers le pays. Ses opinions profondément pacifistes provoquent même un petit scandale lorsqu'en 1964, dans un pays encore englué dans le souvenir de la guerre, la chanson « Les deux oncles » met sur le même pied anglais et allemand, résistants et collaborateurs, leur reprochant de s'être vautrés dans de belliqueux sentiments plutôt que d'œuvrer à la paix.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les Tommy, l'autre aimait les Teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain.
De ses premiers succès jusqu'à sa mort, il y a 40 ans, en 1981, Brassens fait preuve d'une humilité silencieuse et affiche une constance qui inspire le respect. Conscient de ses contradictions ou de ses limites, bien incapable de changer le monde, l'artiste ne se comporte pas en guide ou faiseur de morale, mais s'astreint seulement à agir selon sa philosophie personnelle qui transparaît dans son œuvre et que ses propres mots résument au mieux. L'anarchisme, ce n'est pas seulement de la révolte, c'est plutôt l'amour des hommes.
Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort.
Et pour continuer à parler de Georges Brassens, nous sommes avec celle qui lui a consacré un livre et plusieurs expositions, Clémentine Déroudy. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Bonjour Clémentine Déroudy. Vous êtes en effet l'auteur du livre Brassens, le libertaire de la chanson, paru chez Gallimard et réédité cette année à l'occasion du centenaire de sa naissance. C'est quoi la liberté selon Georges Brassens ?
La liberté, vous l'avez extrêmement bien résumé. Bravo, merci pour ce texte. C'est de passer à côté de toutes les lois imposées par l'État, par la République ou n'importe quel gouvernement.
Ou les institutions, en tout cas.
Les institutions, donc ça veut dire le mariage, la religion, la police. Et c'est quelque chose qu'il a appliqué dans ses chansons, comme vous l'avez si bien résumé, mais aussi dans sa propre vie. Et c'est ça qui est absolument remarquable chez Brassens.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? C'est son génie pur, si j'ose dire, ou son côté anarchiste, justement, ça vous a intrigué, ça vous a...
C'est les deux. Et surtout, je trouve qu'on avait une image totalement fausse de cet homme. Et tout d'un coup, déjà, j'ai découvert l'immense beauté, mais quand je parle de beauté de Brassens, c'est une immense beauté de, d'homme, c'est-à-dire d'essayer de bien se comporter, d'essayer d'être un homme remarquable dans la vie.
Ce qui n'est pas le cas de tous les artistes, justement. Il essayait d'avoir une droiture
c'est-à-dire
morale.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, malheureusement, qui vous imposent des idées, qui vous disent comment agir et qui, dans le privé ou dans la vie quotidienne...
Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Oui.
Lui, absolument au contraire, c'est-à-dire rejeter l'argent. C'est, rejeter l'argent, c'est pareil, c'est très caricatural de dire ça, mais de se dire que l'argent n'avait pas de valeur en soi. Effectivement, chez Brassens, l'argent n'avait pas de valeur en soi, puisqu'il passait son temps à le redistribuer. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose, une quête dans sa recherche de son travail. La notoriété, pareil, ce qu'il voulait, c'était être... D'ailleurs, faiseur de chansons n'était pas forcément le premier but de sa carrière. Lui, ce qu'il voulait, c'est être poète, c'est de pouvoir écrire de sa plume. Et il a passé des années dans une misère noire chez Jeanne et Marcel. Je trouve ça très joli, la manière dont vous parlez de Jeanne et Marcel. Mais au départ, Jeanne était quand même la maîtresse de Brassens. Ils ont eu une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour a continué tout au long de leur vie. C'est-à-dire que ce n'était plus une histoire charnelle, mais une très grande histoire d'amour. Je trouve que si, c'est un auteur de chansons d'amour absolument exceptionnel. Et l'amour, ça veut dire l'amour libre, l'amour différent, l'amour qui n'est pas imposé par des diktats et par une forme de loi, une forme de pensée. C'est d'une modernité absolument incroyable, Brassens.
Mais comment s'est forgée justement la pensée politique de Georges Brassens? Vous écrivez dans votre livre que son père était un anarchiste qui s'ignorait.
Oui, vraiment. C'est-à-dire que comme vous le dites, c'est vraiment son père, je trouve, qui lui a donné un peu les prémices comme ça de l'anarchisme, c'est-à-dire qu'il n'avait pas... Son père était un être absolument merveilleux qui n'imposait rien, d'ailleurs comme Brassens, qui n'imposait rien, mais qui ne rentrait jamais dans les églises, qui n'a jamais voté, qui lui insufflait comme ça quelques idées anarchistes, mais qui n'était pas un militant. D'ailleurs, personne n'était véritablement militant dans la famille, et Brassens ne l'a pas été, hein, puisqu'il est resté très peu de temps au monde libertaire. Et comme vous l'avez si bien dit, lui, c'est d'insuffler quelques idées à travers ses chansons. C'était ça qui était l'important pour lui. Mais voilà, l'anarchisme, c'est par son père et surtout, je crois, et j'en suis même certaine, par la lecture. C'est-à-dire que rejeter le travail, c'est rejeter le travail salarié. C'est pas rejeter le travail. Le travail est quelque chose de merveilleux quand on l'a choisi. Lui, Brassens, quand il a découvert les poètes, quand il a découvert la bibliothèque du 14e arrondissement dans lequel il a passé tout son temps, il passait sa vie à lire, à travailler la versification, à découvrir les poètes, à découvrir la littérature. Tout ça est un immense travail. Les chansons qu'on connaît de Brassens, qui nous semblent si limpides, etc., c'est un travail immense. C'est le plus grand travailleur que je connaisse, Brassens. Ça aussi, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, de 7, qui monte à Paris, et à 20 ans, il décide de devenir poète. Mais tu ne prends pas ta plume et tu ne mets pas à écrire de la poésie. Ça veut dire que lui, il est allé chercher chez tous les poètes qu'il admirait, qu'il connaissait absolument par cœur. Il avait une mémoire phénoménale. Il a travaillé la versification, il a travaillé... Et c'est aussi comme ça, à travers ses lectures, qu'il a découvert François Villon et que la vie de François Villon, il y avait autant sa poésie que sa manière de vivre, qui était on peut dire pareil, un anarchiste qui s'ignorait, c'est-à-dire sur la... Mais qui était vraiment quelqu'un qui vivait en dehors des lois. Il a toujours... Brassens était fasciné, voilà, par des personnages comme ça. Même si lui n'était pas du tout un voyou, vraiment, même s'il le prône dans ses chansons, mais Brassens, vraiment, c'était quelqu'un qui vivait en marge chez Jeanne et Marcel, dans son îlot du 14e. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, comme vous l'avez dit. Mais...
Il y a des photos dans le livre qu'ils ont, que je n'ai jamais vues, qui sont incroyables, où ils se lavent dans la petite cour, c'est incroyable.
Mais c'est surtout qu'il faut imaginer que Brassens, il est devenu célèbre très rapidement, quand même, en 54, c'est une immense vedette, et puis il a continué jusqu'en toute sa vie. Et bien, ce qu'il a choisi, c'est de continuer à vivre chez Jeanne et Marcel. Là où son bonheur était, c'était chez ces gens-là.
Simple, sans confort.
Sans aucun confort. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'impasse Florimond quand j'ai fait l'exposition avec Johann Sfar il y a 10 ans, à la Cité de la Musique. C'était extraordinaire parce qu'on avait l'impression que Brassens avait quitté juste la veille. Il y avait encore les traces de pied sur la moquette, il y avait encore des partitions, etc. C'était absolument exceptionnel, cette manière qu'il avait de vivre.
Alors, en 69, entouré de Brel et de Léo Ferré, une rencontre immortalisée par une photo devenue mythique, Georges Brassens parlait de son implication dans les mouvements anarchistes. On l'écoute.
On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société parce que j'avais dit ça, je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais des solutions collectives. Mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'y étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, je la sacrifierai, ma petite tranquillité.
Bien sûr.
Est-ce qu'il n'y avait pas une part de fatalisme, finalement, chez Brassens?
Totalement. Oui, malheureusement, d'ailleurs.
C'est quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi, mais qui n'avait pas trouvé de solution.
Qui n'avait trouvé absolument aucune solution. La seule solution qu'il avait trouvée, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, ce qui est déjà pas mal. Et puis c'est aussi de se dire, plutôt que d'avoir des grands discours, appliquons nos théories, c'est-à-dire veillons à ce qu'autour de soi, tout le monde aille bien, que veiller qu'il n'y ait pas de problème d'argent, etc. Et tout ça, mais il n'avait aucune grande théorie. Il était contre les rassemblements, il était contre le groupe. Et je pense que moi, d'ailleurs, c'est quelque chose, je dirais, malheureusement. La pensée comme ça, individualiste, c'est quand même quelque chose qui a un peu ses limites. Donc voilà, moi, je pense que c'est un tout petit peu la limite de Brassens, si on doit chercher une limite dans ça, dans la pensée de Brassens, parce que sinon, c'est totalement remarquable.
Mais on retient, nous, en tout cas, que c'était un immense poète. Quelles étaient les sources d'inspiration pour l'écriture de ses chansons?
Les sources d'inspiration, c'était les autres poètes et c'était son quotidien. C'était pour lui, par exemple, François Villon, dont j'ai parlé, parce que vraiment, il s'est même il dit qu'il se prenait pour François Villon, donc il voulait écrire comme cet homme. Donc oui, ça, c'est les sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, c'est aussi, comme n'importe quel artiste, sa vie quotidienne, des pensées comme ça qui distillent, c'est ce qu'il dit. Il dit comment personne ne dit que je me suis engagée. Mais bien sûr, je me suis engagée, dans mes chansons. Et que c'est vrai qu'on ne se rend plus du tout compte aujourd'hui de la répercussion de l'écriture de ses chansons dans les années 50, de ce que ça voulait dire en fait, de chanter ce qu'il a chanté, La mauvaise réputation, Putain de toi, Le gorille. Enfin, c'était une espèce de révolution, c'était une forme de, alors je dis toujours, un punk de l'époque, mais oui, il y avait quand même ça, c'est-à-dire chez Brassens. Et ça, il y avait aussi une manière, une envie chez lui de bouger la société, de ruer un peu dans les brancards, ça c'est absolument évident.
Aujourd'hui, on est parfois choqué des débats sur certains textes de rap, voilà. Aujourd'hui, quand on écoute Le Gorille, on a du mal à comprendre ce qui pouvait tant choquer à l'école, à l'époque. Qu'est-ce qui choquait
Qu'est-ce qui était si choquant chez Brassens? Pourquoi on l'a pas diffusé? C'est ça, je vois pas.
Bah parce qu'on parlait de sexualité, parce que quand même Le Gorille fait quelque chose. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais c'est fou, mais ça paraît complètement.
Il dit pas les mots que ma mère.
Non, mais c'est pour ça, c'est inouï. Moi, je voulais même pas y croire. Et en fait, je suis allée à Radio France et j'ai vu toutes les fiches d'interdiction de ces chansons. Et c'est vraiment grâce à Europe qu'il a pu être diffusé. Ça paraît dingue, dingue. Il y avait des curés qui faisaient des messes quand il passait en concert pour pas qu'il aille, pour que les fidèles n'aillent pas le voir en concert.
Et il y avait vraiment beaucoup de fidèles qui allaient plutôt à l'église qu'écoutaient Brassens.
Non, mais on n'est pas du tout à la même époque. C'est vrai qu'il y a eu une accélération de la société absolument inouïe et que c'est vrai que c'est passionnant de voir la représentation de Brassens, de ce qu'il représentait. Moi, je sais que mes parents, etc., parlaient de Brassens en me disant, oui, c'était vraiment là. Parfois, c'était dans sulfureux. Des familles, c'était sulfureux, il ne fallait pas écouter. D'où le fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de succès aussi.
On écoutait Brassens.
Mais bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui... On ne parlait pas du tout de sexualité à l'époque. Donc Brassens a été le premier chanteur à parler de sexualité dans
ses
chansons.
Et pour autant, il n'était pas people. Je veux dire, par là, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, c'était les copains d'abord.
Effectivement, c'était les copains d'abord. Je pense que ça aussi, c'est sa pensée anarchiste, sa pensée libertaire. C'est-à-dire qu'il était contre le mariage, contre une institution comme le mariage, donc il ne s'est pas marié avec Poupchen, qui était sa compagne, qu'il a rencontrée à la fin de la guerre. Et après, je pense que ça lui plaisait bien aussi d'avoir cette vraie vie en marge, d'avoir Marcel, Jeanne et Marcel, et puis d'avoir Poupchen. Il rêvait d'un phalanstère dans lequel il aurait vécu avec tous ses amis. Donc Crépierre, qui était sa maison de campagne, il a un peu reconstitué ça. Tous les copains venaient le week-end faire des travaux. Il y avait Poupchen qui était là, etc. Lui, effectivement, vous avez entièrement raison. De toute façon, le côté people n'existait pas. Enfin, c'était vraiment le tout début. Mais pour lui, c'était l'opposé même de son quotidien et de sa manière de vivre. C'était son meilleur ami, c'était René Fallet. C'était un écrivain. Enfin, il était tout le temps dans le goût de la littérature, dans les blagues avec ses copains, c'est évident, dans le travail de ses chansons.
Est-ce que c'est anachronique de dire que Brassens était un féministe un peu avant l'heure? Ne gravons pas nos noms en bas d'un parchemin. La domination masculine.
Totalement. Moi, c'est pour ça aussi que je suis, tombée amoureuse de Brassens. Mais oui, c'est vraiment quelqu'un qui m'aide à vivre chaque jour. Ça a été un des premiers féministes, même si on emploie ce terme maintenant n'importe comment. Mais c'est quelqu'un qui a pris la défense des prostituées. C'est quelqu'un qui a donc un des premiers à avoir défendu l'amour libre, c'est-à-dire sans mariage, sans l'amour de tout sexe. Enfin, c'est quelqu'un qui a chanté le sexe féminin avec le blason. C'est quelqu'un qui a chanté la fidélité aussi dans Saturne, où il parle de sa fiancée, du sel dans les cheveux de sa fiancée, c'est-à-dire dans tous ses copains partaient avec des minettes de 20 ans. Lui, il est toujours resté auprès de Poupchen.
Ce qui est bizarre, c'est que jusqu'à sa mort en 81, il est au top. Enfin, on écoute, On chante, on écoute du Brassens. Ensuite, il y a une sorte, là, ces 40 dernières années, il est un peu tombé dans l'oubli. Et là, vous sentez, il y a évidemment exposition, livre, 100 ans de sa naissance, 40 ans de sa mort, un timbre qui est publié par La Poste.
Nous, on a fait l'exposition, puis le livre aussi chez Dargaud, Brassens sous la liberté avec Johann Sfar. Je dois avouer, et je remercierai jamais assez la Cité de la Musique de m'avoir suivi, mais au départ, il n'était pas très enthousiaste. Ça a été un des plus gros succès de la Cité de la Musique, son 50 000 visiteurs.
J'ai l'impression que chaque génération redécouvre Brassens.
Voilà, mais il y a quelque chose, et vous avez entièrement raison, il est rentré, et moi c'est ça que j'essaie de montrer un peu le côté sulfureux de Brassens, parce qu'il est rentré un peu dans les institutions.
Oui,
donc c'est une forme de statut aujourd'hui,
voilà.
Alors qu'on se rend pas du tout compte. Et ça, aujourd'hui, il y a un grand plaisir à redécouvrir ça, et qu'il y a quelque chose de totalement intemporel chez Brassens, dans la manière d'écrire ses chansons, dans sa musique, etc., où lui ne voulait coller à aucune époque. Donc vous avez raison, il y a des moments où on l'écoutera moins, puis d'autres, et ça continuera tout au long des siècles.
Merci Clémentine Houdier. Je rappelle votre livre Brassens, le libertaire de la chanson, aux éditions Gallimard, et on remercie aussi Frédéric Bory qui publiera dans quelques semaines Georges Brassens, militant anarchiste, aux éditions Le Mot et le Reste, des écrits qui nous ont permis d'enrichir notre propre récit.
Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires où l'on peut croiser Fernande et Félicie aussi. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui Clémentine, à l'occasion du centenaire de la naissance de Brassens qu'on célèbre aujourd'hui sur Europe 1, vous vous êtes penchée sur son lien particulier avec les femmes qui sont nombreuses dans ses chansons. Mais dans sa vie aussi.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez que plus de la moitié du répertoire de Brassens est dédié aux femmes. Je pense qu'on le subodorait tous plus ou moins parce qu'on a nombre de ses chansons en tête, mais peut-être pas jusqu'à ce point. Les femmes ont énormément compté pour lui, que ce soit sentimentalement ou dans sa carrière d'artiste. Et par exemple, c'est Patachou qui lui fait passer une audition et qui l'a poussé à se produire sur la scène de son cabaret. Alors, avant de rencontrer la femme de sa vie, et sa muse, c'était en 47 et elle s'appelle Joa Heimann, qu'il surnommait Pupchen, petite poupée. Brassens papillonnait avec des femmes dont la caractéristique était d'être presque toujours plus âgées que lui. Alors, il y en a une avec laquelle il n'a pas eu d'aventure du tout, mais c'était sa tante. Donc déjà, quand il arrive à Paris, sa vie parisienne commence sous un signe féminin, parce que sa tante Antoinette d'Agrosa les héberge, ses parents et lui, et elle a un piano. Donc c'est déjà chez cette femme qu'il apprend à jouer du piano. Jeune homme, en mars 44, il a 23 ans. Il a passé quelques mois au STO en Allemagne, et quand il revient en France, il ne veut plus repartir. Alors c'est là qu'il va se caché au 9 impasse Florimont, dans le 14e arrondissement, chez Jeanne Planche. Donc la fameuse Jeanne de la canne de Jeanne, c'est elle.
La canne de Jeanne est morte au Guil-en-Neuf.
C'est beau, hein, au Guil-en-Neuf. Bon, on n'utiliserait plus ça de nos jours. Elle avait 30 ans de plus que lui. Ça
s'embrasse sous le Guil-en-Neuf.
Bah oui, vous ne faites pas ça.
Si, on fait ça.
On s'embrasse toujours sous.
Ah oui. Donc ça tombe. Sa tante Jeanne avait 30 ans de plus que lui. Avec elle et avec son mari, ils vont commencer une espèce d'étrange ménage à trois. Brassens va rester 22 ans chez elle. Et pour ne pas la rendre jalouse, eh bien, il a quelques amourettes tout de même, mais quelques amourettes clandestines, notamment avec Josette, âgée de 17 ans, entre juin 1945 et août 1946. Et c'est Josette qui lui inspirera une jolie fleur.
Une jolie fleur dans une peau de vache.
Une jolie vache déguisée en fleur. Eh bien, c'était Josette. Hein. Et puis, autre rencontre, autre amourette un peu clandestine. Putain de toi.
Ah, putain de toi.
Ça, c'est aussi Josette. Bon, alors, évidemment, il y a d'autres noms de femmes dans ces chansons qui nous sont familiers. Fernande, que vous chantiez si bien tout à l'heure.
Pas si mal.
Bon,
si
bien. Jeanne, Marinette, les sabots d'Hélène.
Les sabots d'Hélène. Était tout crotté,
les trois capitaines. Le chapeau de Mireille aussi. Bon, alors, celle qui par-dessus tout a compté naturellement, c'est Joa Heimann. La première fois qu'il la voit, la guerre vient juste d'éclater. Elle passe devant le métro Plaisance. Il la remarque, il la voit juste partir. Il la recroise une autre fois, mais n'ose pas l'aborder. Et puis c'est un soir de 47, c'est quand même un drôle de hasard. Il se retrouve nez à nez dans le métro. Et là, il ose lui demander un rendez-vous. Joa Heyman, c'était une ancienne comédienne qui venait d'Estonie. Elle avait 9 ans de plus que Brassens. Elle a quitté l'Estonie en 1930 et elle aussi a été accueillie à Paris chez une tante, sa tante Betty. De 1931 à 1933, elle séjourne dans un pensionnat parisien de jeunes filles. En 1934, elle rencontre son futur mari, Jean-Paul Rusconnet, dont elle a un fils en 1935. Donc, Joa avait ce fils Yvon. Elle l'avait appelé Yvon parce qu'elle pensait que Yvon, c'était la traduction de, française de Yvan. Puis vient la guerre, mobilisation, séparation, divorce. Donc quand il rencontre Joa Heyman en 47, elle est déjà divorcée, mais elle a un fils de 12 ans. C'est son grand amour, il la surnomme la blonde chenille, ou donc Pupchen, et elle l'appelle le roi Jo. Il disait d'elle, ce n'est pas ma femme, c'est ma déesse. Et c'est pour elle qu'il compose et écrit « Je me suis fait tout petit devant une poupée ».
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Bon, ils avaient une relation pas comme les autres, tous les deux. Ils ne vivaient pas ensemble. Brassens s'était opposé au mariage. C'est d'ailleurs pour Pupchen qu'il l'écrit en 66, la non-demande en mariage.
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main.
Alors, c'était quelque chose d'assez étrange parce qu'ils ne vivaient pas ensemble, mais quand ils voyageaient, ben, ils pouvaient être dans la même maison, mais vivaient dans deux chambres séparées. Mais ils passaient quand même leur vie ensemble parce qu'elle était toutes les fêtes dans la maison de campagne de Crépierre et puis dans celle de Les Ardrieux. Mais Brassens a pu écrire à propos du mariage, donc auquel il ne croyait pas du tout, l'encre des billets doux pâlit entre les feuillets des livres de cuisine. Voilà, donc en gros, le mariage, ça détruit l'amour. Se marier, disait-il, implique que l'on fonde un foyer, qu'on ait des enfants et qu'on s'en occupe. Or, moi, je ne suis pas capable de m'occuper d'un foyer. J'ai préféré ne pas en avoir. Je préfère vivre seul. Il n'a donc pas eu d'enfants, mais quand même, il aimait les enfants. Et en 1950, la très jeune fille de Jacques Grelot arrive à obtenir de lui qu'il lui donne sa guitare. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et il a quand même eu dans sa vie un enfant qui était donc ce fils, Yvon Rusconnet, le fils de Joa, qui, je le disais, avait 12 ans quand il rencontre Brassens et qui lui-même a disparu récemment, en mars 2017, à 82 ans. Alors enfin, Brassens a mis aussi en musique le fameux poème d'Aragon, dont le refrain « Il n'y a pas d'amour heureux ».
Il n'y a pas d'amour
heureux. Bon, plutôt tragique. Alors, le truc, c'est qu'en réalité, ça ne correspondait en rien à sa propre vie. Lui, il a été très heureux en amour. Il avait trouvé son port d'attache, Joa, et il lui est resté amarré 34 ans jusqu'à sa disparition. Donc Brassens n'était pas marié, mais il était monogame.
Hein ? Merci Clémentine.
Merci beaucoup Clémentine. Vous restez avec nous. Le quiz spécial Brassens, évidemment, oui, aujourd'hui arrive. Oh là, ouais. On va chanter probablement.
Oh là,
et un des deux va déchanter.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors, puisque nous vous proposons aujourd'hui une spéciale anarchie, je suis contraint de m'adapter en vous proposant pour une fois une version bordélique du quiz. J'espère que les habitués ne seront pas trop
décontenants. Ils sont même d'habitude.
Jouons à Bern to be alive. Stéphane, spécial Brassens, donc le quiz. Première question pour vous. Qui n'a jamais sorti de disque en chantant du Georges Brassens ? Johnny Hallyday, Frankie Vincent ou Iggy Pop ? Quel de ces artistes n'a pas repris Brassens ? Trois artistes que vous connaissez bien.
Oh là là, je sais que Johnny a repris du Brassens.
Alors voilà, procédé par élimination.
Vous vous souvenez de ce qu'il avait chanté ? Je vois pas du tout Johnny.
Il a repris du Brassens. Je crois. Il reste Iggy Pop ou...
Frankie Vincent,
je dirais.
Frankie Vincent, vous dites que Frankie Vincent n'a jamais chanté du Brassens. Vous ne le voyez pas chanter.
Non, mais je le vois pas du tout.
La mauvaise réputation.
Son nom me dit quelque chose.
Mais c'est d'abord, il aurait pu reprendre.
Mais Frankie Vincent, ce n'est pas ce chanteur qui est l'idole des dames, là.
Alors, oui. Frankie Vincent n'est plus...
C'est Frank Michael.
Ça, c'est Frank Michael. Si vous mettez... Si vous allez... C'est par exemple, si j'offre une place de spectacle à ma grand-mère pour aller voir Frank Michael et que c'est Frankie Vincent qui arrive sur la scène et qui commence à chanter une de ses chansons phares qui s'appelle Le Zizi, je pense qu'elle va déchanter, effectivement.
Alors, non, c'est peut-être Iggy Pop. Allez, Iggy Pop.
Vous avez
Vous aviez la bonne réponse, Stéphane. Pourquoi vous avez changé au dernier moment?
Zizi. Je vous dis qu'il a dû reprendre une chanson de...
Ah oui, c'était bien pensé. Ouais. Alors non, c'est pas la bonne réponse. Ouais. Effectivement, c'est Francky Vincent qui n'a jamais repris Brassens. En disant ça, j'espère qu'il n'écoute pas Europe 1 pour ne pas lui donner de mauvaises idées. Voici Johnny chantant le parapluie.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose.
Je vous sens, Clémentine, dubitative quand
je savais qu'il avait repris du Brassens, il adorait.
Et voici Iggy Pop maintenant, chantant Les Passantes.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime.
Excellent.
Ah, c'est génial ça.
Pendant.
Bon. J'aurais dû suivre mon instinct.
Eh oui. Enfin, ça dit, Francky Vincent a jusqu'à la fin du quiz pour nous livrer sa reprise.
Oui,
je vous en prie, ma grand-mère écoute notre émission. Question numéro 2 pour vous, Clément. Même punition. Qui n'a jamais chanté de Brassens? Nana Mouskouri? Josiane Balasko? Ou Gad Elmaleh?
Je dirais Josiane Balasko.
Vous êtes sûr de vous?
Non.
Vous avez...
Et vous avez raison de ne pas être sûr de vous. C'est Gad Elmaleh qui n'a pas chanté Brassens, c'était un piège. Il a repris du Nougaro dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi cela. Et voici Josiane Balasko et sa complainte des femmes de joie.
Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain ne fût amère.
Ça lui va bien, Balasko, Brassens,
oui,
je trouve, c'est pas mal.
Oui,
et
oui,
Nana
oui.
aussi.
Il n'y avait jamais de beau temps.
Ah oui, c'était un petit cheval blanc tous derrière et lui devant.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Ceux qui ont eu la chance d'approcher Brassens sont souvent tombés en amitié, comme on dit au Québec, avec le chanteur. Star, comme anonyme d'ailleurs, son propre facteur, apprenant son déménagement, a d'ailleurs demandé à, et réussi à être muté pour pouvoir le suivre. Vrai ou faux?
Ça serait génial. Ça.
Oui, c'est une belle histoire.
Ah oui, je veux y croire.
Vous avez envie de croire,
J'ai envie de croire
ce beau geste.
Vous avez gagné.
Oh Stéphane, vous avez gagné. Il s'appelait Jean Rault et en 1966, quand Brassens part du 14e pour rejoindre le 15e arrondissement de Paris, eh bien, il demande et obtient sa mutation auprès de La Poste. C'est une belle histoire, il devait vraiment être tellement sympa.
Ouais.
Question numéro 4 pour vous Clémentine. Brassens, c'est la pipe, c'est la moustache, mais c'est aussi sa guitare. Mais ce qu'on sait peu, c'est que son tout premier instrument de prédilection... C'était la batterie. Vrai ou faux?
Ça me dit vaguement quelque chose. Je ne sais pas si c'est la batterie, mais je me demande si en effet son premier instrument n'était pas autre chose que la guitare. J'ai lu une anecdote autour de sa guitare. Il se l'est fait voler, une de ses guitares. Il s'en est fait donner une autre. Est-ce qu'il aurait joué de la batterie? Écoutez, je vais répondre oui. Oui. Oui.
Vous répondez oui.
Vous avez gagné.
Et c'est une très bonne chose, puisque ça nous amène à la question 5. C'est vrai, adolescent, Georges Brassens tient la batterie dans un petit orchestre de jazz à 7. Renvoyé du collège, il monte à Paris où il se mettra alors au piano. D'une manière générale, sachez-le, quand il cherchait une musique, il composait plutôt au piano qu'à la guitare. Moi, j'aurais dit l'inverse. Question numéro 5, elle va vous départager, c'est une question de rapidité. Avec un choix 5 propositions, Le décompte pourrait être contesté par les puristes, mais nombre d'entre eux sont d'accord sur ces chiffres. Il existe 121 chansons enregistrées, paroles et musiques de Brassens, 29 chansons qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer, 9 qui ont été faites pour d'autres. Parmi ces titres, laquelle n'a rien à voir avec Brassens? Bécassine, Il n'a pas eu la chaude pisse, J'appelle Raoult, Les Radis, ou La valse des gros culs.
3.
Bécassine.
J'appelle Raoult.
J'appelle Raoult, mais exactement. Très bonne réponse de Stéphane Bern qui connaissait donc Il n'a pas eu la chaude pisse et La valse des gros culs. Ce sont des standards. Effectivement, J'appelle Raoult n'a rien à voir avec Brassens. Bécassine, on écoute.
Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine.
C'est sur le 12e album de Brassens. Il n'a pas eu la chaude pisse.
Depuis ma venue ici-bas, rien jamais ne me fut propice. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais eu la chaude pisse.
Ah, évidemment, ça faisait réagir la salle. Une chanson qu'il n'a pas enregistrée, mais dont il a fait les paroles quand il était au STO en Allemagne. Les Radis.
Je voyais s'enfoncer dans un endroit, il me faut taire, par modestie, un énorme radis.
Alors ça, vous avez, c'est une maquette. Hein, on a entendu
oui,
effectivement.
Là, effectivement.
Vous ne pouvez pas le sortir comme ça. C'est en 2001, on a découvert ce morceau. Et la valse des gros culs. C'est fou, on voit les gros culs. Une chanson sans parole qui n'a jamais été commercialisée. Stéphane, vous avez l'air de très très bien
comment
connaître.
Comment saviez-vous ça? Alors là, Raoul, vraiment, ça me dépasse. Hein. Vous avez répondu au pif,
ouais,
ou...
au pif, ouais. Oui, mais j'adore.
Parce que vous avez pensé au ministre Raoul, en vous disant non.
J'ai pensé
ça. C'est ça.
Votre chanson préférée de Brassens, tous les deux.
La non-demande en mariage, mais il y a aussi, que je trouve très belle, et il n'y a pas d'amour heureux quand il a mis cette chanson.
Non, mais si vous n'aimez que des trucs sinistres, moi aussi ouais. D'ailleurs.
Mais oui,
moi
mais...
j'aime beaucoup la complainte pour être enterré à 7.
Ah oui, d'accord, mais, donc on est bien, ouais, là, on est vraiment
quand
sur
j'étais
du,
gamin, on écoutait tout le temps les amoureux sur les bancs publics.
Oui, puis l'Auvergnat, on chantait au lycée tous, l'Auvergnat et l'Auvergnat, la mauvaise réputation.
On l'a appris. Pour moi, c'est les copains d'abord. Ouais. Et victoire de Stéphane, évidemment, évidemment, bravo
je
Stéphane.
Je ne demande rien,
écoutez,
passons tout cela sous silence.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter dans une décontraction telle qu'elle frôle parfois l'anarchie.
Ouais. N'exagérons rien, Stéphane, le truc le plus anarchique que vous avez fait dans votre vie, c'est de pousser avec votre couteau à pain un soir où vous aviez trop bu chez l'archiduc du Luxembourg.
Allez, réservez-moi du rosé.
Oui, bah vous étiez dans un sale état quand même. Hein.
Vous avez raison, Mathieu, nos personnages du jour sont beaucoup plus anarchistes que moi et que vous.
Oui, c'est pas très dur.
Oui. Alors, après Georges Brassens et ses chansons engagées, je vous raconte l'histoire d'un peintre anarchiste qu'il était tout autant, Paul Signac. Il a fait évoluer la peinture et a voulu changer la société. Et puis, vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un artiste plus contemporain, aussi surréaliste qu'anarchiste.
Non, il s'appelle Noël Godin et il a inventé l'art de l'attentat pâtissier, de belles grosses tartes à la crème joyeusement emplâtrées sur la tête de personnalités un peu trop arrogantes à son goût. BHL en fait encore des cauchemars la nuit, il est obligé de se serrer fort contre Ariel Dombal, c'est dire. Qui est Noël Godin et pourquoi l'a-t-on surnommé le gloupier? Tous les belles sont-ils forcément fous? Nous poserons la question à Olivier Pouls.
Sans oublier justement nos chroniqueurs, David Castel-Lopez qui remonte aux origines d'une invention. Oui. Et là, en l'occurrence...
Bah, c'est vraiment pas très sympa pour Georges Brassens parce qu'on sait bien qu'il aimait un...
Il était en militaire.
Je ne fais de mal à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Et ben moi, je fais les origines du service militaire.
Que vous auriez aimé faire.
Que j'aurais aimé faire. Je pense que je suis une des seules personnes de ma
vous
génération.
Vous êtes un drôle de zozo, ça pour sûr. Olivier Pouls est avec nous, le Belge de l'étape.
Mais un plat que Georges Brassens a certainement dégusté, que j'imagine, il l'appréciait, la tielle sétoise.
D'accord.
Enfin, au service militaire, on aurait foutu un beau bordel dans la caserne en toute fin d'émission avec Pouls et Castello. On se défie dans l'épreuve du quiz. Ce sera la lutte finale, fraternelle ou fratricide, ça dépend des jours. Tout de suite, vous aimiez ces tableaux, mais saviez-vous qu'il était anarchiste? Il est un artiste à part dans le paysage, qui en a peint de nombreux d'ailleurs, des paysages, mais derrière ces harmonies colorées se cache un discours plus radical et très engagé.
Oh mon Dieu!
Oui Stéphane, comme vous dites, mais avant de décrocher les toiles qu'il a dans son salon, Stéphane Bern nous raconte le peintre anarchiste Paul Signac.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si un jour, Mathieu, un mariage, oui. Bon, pas le vôtre, je sais qu'on vous a récemment passé la bague au doigt, ou peut-être une simple balade patrimoniale vous mène jusqu'à l'hôtel de ville de Montreuil, près de Paris, vous ne pourrez manquer l'occasion d'admirer l'immense toile qui trône dans l'escalier d'honneur et aurez certainement du mal à rester de marbre face à ce qui s'en dégage. L'œuvre, qui se nomme « Autant d'harmonie », fut exécutée entre 1893 et 1895 par Paul Signac. Si l'artiste de 30 ans a mis presque 3 ans à achever le tableau, c'est certes pour ses dimensions, 3 mètres sur 4, mais aussi pour sa technique rigoureuse. Le principe, ne jamais amalgamer des couleurs sur la toile, mais apposer des petites touches de pigments purs collées les unes aux autres, afin qu'avec le recul, l'œil du spectateur fasse le mélange, un peu à l'image des pixels que nous connaissons sur les écrans numériques. La scène montre une quinzaine de personnages à Saint-Tropez où Signac possède une maison. Ils sont en bord de mer, enveloppés dans la douce lumière du midi, s'adonnant à de plaisantes activités, de la lecture à la danse ou la cueillette d'un fruit sauvage. Mais au-delà de l'aspect bucolique, ce tableau est en fait une œuvre programmatique, véritable manifeste pour un futur que le peintre appelle de ses vœux. Le sous-titre en atteste. L'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. et le premier titre envisagé nous éclaire plus précisément sur les aspirations de son auteur. Il devait être « Au temps d'anarchie ». Car Paul Signac a milité toute sa vie pour son avènement. Pas l'anarchie que l'histoire et la langue retiennent sous ses sombres manifestations, pas le chaos d'un monde déréglé, mais une anarchie heureuse, celle, je le cite, de l'ordre sans le pouvoir, celle où la domination des hommes sur les autres n'existerait plus, reléguée à un passé barbare par l'éclosion d'un monde nouveau où vivraient des individus libres dans leur solidarité. Ceci n'est pas une utopie, mais un désir, une revendication. Rien ne prédestinait pourtant Signac, né en 1863 dans une famille bourgeoise, à embrasser des considérations politiques radicales. Si ce n'est peut-être le régime de la Troisième République, quasiment le seul qu'il ait connu, a priori moderne et progressiste, mais pour lequel il développe un profond mépris, écœuré par ses hypocrisies et inégalités. Très vite, Paul Signac ne croit plus aux messages véhiculés par les peintures qui ornent les hôtels de ville de son temps, louant les valeurs civiques qui participent pour lui à l'édification d'un idéal républicain. À 18 ans, après avoir découvert les œuvres impressionnistes de Claude Monet, Signac se lance dans la peinture sans rien en connaître. Il rencontre Georges Seurat, qui a mis au point la technique du pointillisme dont il deviendra un ardent défenseur. Avec quelques autres, Camille Pissarro, Maximilien Luce ou Henri Edmond Cros, il explore cette technique de touche de couleur qu'il théorise en un système abouti, influencé par les récentes recherches scientifiques sur la lumière. Tous préfèrent d'ailleurs l'appellation de divisionnisme, car il ne s'agit pas seulement de peindre en pointillé, mais de n'utiliser que les couleurs primaires ou secondaires pour viser un éclat lumineux que les couleurs mélangées sur la toile ne permettent pas. Il s'agit aussi de séparer la couleur des choses de celle de la lumière ou de l'ombre qui se porte sur elle, et de structurer la composition dans des lignes signifiantes. Le mouvement est baptisé néo-impressionnisme en 1886 par le critique Félix Fénéon, avec qui Signac devient ami et aiguise ses idées politiques. L'époque est à la révolte. L'anarchisme séduit de plus en plus le monde prolétaire embourbé dans les inégalités des souffrances sociales auxquelles les artistes sont sensibles. Le désir d'un ordre nouveau se manifeste radicalement, parfois par la violence qui culmine au début des années 1890 par les attentats du célèbre Ravachol ou l'assassinat du président Sadi Carnot. Cette violence, Signac ne la cautionne pas. Mais il la comprend, comme en témoigne son journal au moment de la mort du président américain McKinley, tué par un anarchiste en 1901. « Une société où des êtres meurent de faim et de froid, écrit-il, ne peut s'étonner de tels actes. » En France, la réponse des autorités est féroce. Elle aboutit à l'élaboration des lois dites scélérates et au procès connu comme celui des 30 en 1894, où des activistes et simples sympathisants sont traînés aux assises. Fénéon et Luce, amis de Signac, font partie des prévenus, mais seront acquittés. Ce climat délétère fait que lors du Salon des Indépendants en 1895, une exposition alternative à celle de la peinture officielle, Signac décide d'abandonner le titre originel et baptise prudemment son immense toile « Au temps d'harmonie ». Il y montre donc l'avenir qu'il pense réalisable. L'harmonie lumineuse est le pendant pictural à une société hédoniste et égalitaire. Justice en sociologie, harmonie en art, même chose, se plaisait à dire le peintre. Mais l'anarchie passe aussi par la destruction. Ainsi, le tableau Le Démolisseur, en 1899, présente un ouvrier donnant, selon les mots de Signac, un solide coup de pioche au vieil édifice social qui craque. L'anarchie devient ici plus ombrageuse sous les traits d'un homme abattant le vieux monde qui ne gît plus que dans ses ruines, alors que Signac a plutôt l'habitude de peindre des paysages enchanteurs. Comme si les lois scélérates et l'immobilisme d'une société croupissante dans le nationalisme et l'affaire Dreyfus avaient noirci ses espérances. Mais Signac y croit toujours malgré les désillusions, comme en 1914, lorsque certains de ses amis anarchistes succombent en rejoignant l'union sacrée de tous les bords politiques et s'abandonne au patriotisme va-t-en-guerre. Signac, lui, libertaire antimilitariste, vit très mal le conflit. Il s'engage alors avec les pacifistes internationalistes et restera toute sa vie attentif aux luttes pour la liberté. Bien que son anarchisme soit plus affectif que combattant, il continue à s'engager par exemple dans l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires en 1932, où 2 ans plus tard, dans le comité des intellectuels antifascistes, il ratera malheureusement de peu l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936, moins d'un an après sa mort. Jusqu'au bout donc, Paul Signac eut foi en ce renversement, en l'épanouissement d'un monde et d'un homme nouveau que beaucoup attendent encore. Lui-même l'avait écrit dans son journal « Amour, bonté, humanité sont là des mots d'avenir et je m'y tiens, même si c'est un avenir lointain. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Paul Signac, nous sommes avec son arrière-petite-fille Charlotte Hellmann. Bonjour Charlotte.
Bonjour Mathieu et bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte Hellmann, vous êtes la responsable des archives Signac, mais aussi l'arrière-petite-fille de ce peintre libertaire. L'anarchisme coule donc dans vos veines ?
Je ne sais pas s'il coule dans mes veines, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on travaille dans les archives de Signac et toute sa correspondance avec les intellectuels de son temps, cela permet aussi d'avoir un peu un regard critique sur l'actualité et d'avoir toujours une petite veilleuse en arrière-plan, puisque c'était quand même une génération qui s'attachait beaucoup à la défense des libertés à un moment où elles ont été régulièrement remises en cause.
Mais c'est une fierté pour vous, j'imagine, que celle d'entretenir la mémoire de Paul Signac.
Plus qu'une fierté, je dirais un plaisir. C'est vrai que ça peut être parfois piégeux. Il y a des descendants qui sont rasoirs parce qu'ils considèrent que leur aïeul a tout fait, etc. Moi, j'ai essayé de rester un petit peu objective si possible. Mais j'avoue qu'en travaillant avec lui, si j'ose dire, j'ai fini par le trouver très sympathique.
Ces idées, justement, libertaires, anarchistes, elles font écho à quelque chose aujourd'hui ? Vous trouvez ça dépassé ou au contraire, vous le trouvez précurseur ? Enfin, en l'étudiant, vous vous dites quoi ?
Mais j'étais frappée par toute l'actualité des débats de son temps qui finalement font toujours écho aujourd'hui. Ça paraît impensif de dire ça, mais vraiment ça m'a beaucoup frappée, notamment au moment des débats sur les attentats, sur la répression, sur le pass sanitaire et sur cette vigilance qu'ils ont toujours eue à l'égard des libertés individuelles.
Tout à l'heure, on parlait de Georges Brassens, un autre anarchiste qui mettait en adéquation sa vie et ses idées. Est-ce que là, chez Paul Signac, on peut dire que c'est la même chose ? Il avait quand même un mode de vie très bourgeois, il avait sa petite maison à Saint-Tropez, on en connaît d'autres. Mais disons que, est-ce qu'il était anarchiste vraiment dans le quotidien ?
C'est vrai, c'est un peu le bobo de l'époque, mais ils sont nombreux dans ce cas. Je dirais qu'il y a aussi un fait, c'est que la plupart des artistes venaient aussi de la bourgeoisie, et la bourgeoisie dans ce qu'elle pouvait avoir de bien, c'est-à-dire avec la possibilité de travailler sans penser toujours au lendemain, et puis de réfléchir aux enjeux de la société qui les entoure. Je pense que c'est une catégorie sociale qui avait aussi le sens du devoir, peut-être, c'est un mot un peu démodé, mais qui s'intéressait aux conditions de ceux qui avaient eu moins de chance qu'eux. Donc il y a en effet des contradictions et aussi une vraie sincérité.
Signac est un homme libre d'esprit qui préfère l'anticonformisme à l'art officiel. Mais comment la critique a-t-elle accueilli ses premières toiles ?
Mal au début, bien sûr, puisqu'il s'inscrit vraiment dans la suite des impressionnistes qui ont été rejetés. Et petit à petit, il va se faire une place quand même, grâce à Pissarro qui va lui ouvrir la voie en le faisant entrer dans le groupe impressionniste. Et puis ensuite, en essayant d'imposer le néo-impressionnisme à la suite de son mentor, Seurat.
Qu'est-ce qui définit le mouvement néo-impressionniste dont Signac est un des chefs de file ? Comment on pourrait le résumer ?
Alors Stéphane l'a très très bien résumé dans sa chronique, c'est vraiment cette idée que la pureté de la couleur doit prendre le pas dans le regard du spectateur et que pour ce faire, il faut diviser la touche sur la toile et ne pas mélanger les couleurs. C'est l'idée du mélange optique. En fait, cette idée scientifique qui a été inspirée par tant de grands scientifiques, en réalité, elle ne fonctionne pas scientifiquement, mais elle a eu le mérite en effet de faire éclater les couleurs sur les toiles. Et ensuite, à Saint-Tropez, Signac va être obligé de monter ses couleurs, de mettre des couleurs plus chaudes et des touches plus larges, donc en quelque sorte un peu de tricher.
Ah, il a triché.
Dans votre livre « Glissé mortel » paru aux éditions Philippe Ray, vous revenez sur la vie amoureuse digne d'un roman de votre arrière-grand-père, anticonformiste et libre. Paul Signac l'est aussi dans sa vie privée.
Oui, il s'y attendait pas du tout. Il a été surpris par le destin. Et puis, justement, il est pris dans ses contradictions puisqu'il a un enfant avec une maîtresse. Il va quitter sa femme pour cette autre femme qui, elle-même, a quitté son mari et ses 3 enfants. Mmh. Ils vont inventer une sorte de famille recomposée puisque Signac, n'ayant pas divorcé et tenant à garder sa parole et sa protection à sa première épouse et en allant déjeuner avec elle toutes les semaines, va faire en sorte que cette épouse aime cet enfant et l'adopte. Donc on est déjà dans une sorte de recomposition familiale.
Bobo, famille recomposée,
c'est ça.
Était très très en avance. Le musée d'Orsay présente en ce moment une exposition intitulée Signac collectionneur, dont vous êtes commissaire. On y découvre 120 œuvres achetées par Paul Signac tout au long de sa vie. Des œuvres de qui? Quels célèbres artistes on trouve dans cette collection?
Cézanne, qu'il a acheté à 16 ans.
À 16 ans?
Oui, Cézanne à 16 ans. Il avait reçu de l'argent parce qu'à l'époque, on pouvait s'acheter un homme quand on ne voulait pas faire son service militaire.
Ah oui,
et il a utilisé cet argent pour s'acheter un Cézanne. Et ensuite, il continuera toute sa vie à acheter des œuvres des artistes qu'il aime, qu'il apprécie. Les impressionnistes, Monet, Degas, ceux qui l'ont inspiré. Et puis ensuite, les néo-impressionnistes. Et un peu plus tard, les fauves comme Matisse ou Camus.
Vous avez grandi avec tout ça autour de vous dans la maison ?
Oh non, parce que la collection a été largement dispersée et que ça a été un jeu de piste d'aller rechercher dans les musées et chez les particuliers du monde entier toutes ces toiles.
La collection de Paul Signac comprend au total 450 tableaux. Comment est-ce qu'il sélectionnait les pièces qu'il achetait ? C'était uniquement par goût ou il avait un sens aussi de...
Il avait un œil, incontestablement, un œil très sûr et puis un goût pour la couleur bien sûr. Donc il y a énormément de tableaux néo-impressionnistes et ensuite fauves qui prendront la suite. Et puis parfois des surprises, des choses plus inattendues, des nus, des choses un peu audacieuses qu'il achetait par l'intermédiaire de Fénéon ou par troc quand il avait moins de moyens.
Stéphane l'a dit dans le récit, à la fin du 19e, les anarchistes utilisent parfois la violence. Signac aurait été un peu embêté qu'une bombe explose au milieu de ses œuvres d'art. C'était quoi son rapport ?
Certainement. Il était profondément pacifiste et non violent. C'est vrai que c'est une époque très violente et on l'a un peu oublié. Et il est plutôt du côté des pacifistes et il l'a bien montré ensuite en s'opposant à la guerre toute sa vie.
Mais merci beaucoup Charlotte Hellmann. Je rappelle que l'exposition Signac collectionneur est présentée en ce moment au musée d'Orsay à Paris et cela jusqu'au 13 février 2022. Et puis il y a toujours votre livre Glissé mortel aux éditions Philippe Ray.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque des artistes anarchistes. Après Georges Brassens et Paul Signac, vous nous brossez Mathieu le portrait d'un anarchiste belge qui sévit encore.
Le Belge est-il drôle de nature ? Le Belge est-il pour ainsi dire biologiquement drôle ? Ou bien le Belge est-il drôle en réaction du fait qu'on se fout souvent de sa gueule ? Olivier Pouls doit avoir une idée, lui qui subit beaucoup dans cette émission, notamment au moment de la lutte finale où on ne le rate jamais.
Quel roi a cru que c'était un os ?
François Ier.
Oh, 152 de cuite, tu peux rentrer chez toi en Belgique. Plutôt que de se braquer devant ce genre d'attitude moqueuse, plutôt que de s'insurger contre une lourdingue histoire belge, le Belge a admirablement sublimé cette condescendance rieuse qu'on avait pour lui en devenant beaucoup, mais alors beaucoup plus drôle que nous. Philippe Geluck, Benoît Poelvoorde, le taux d'imposition sur le patrimoine, on a désormais beaucoup de choses à envier aux Belges. Et parmi ces choses, qui incluent également les frites, les moules, les gaufres et François Damiens, il y a Noël Godin, le premier terroriste gentil. Noël Godin est un journaliste satirique, humoriste à 16 heures, lorsqu'il laisse le champ libre à son alter ego, Georges le Gloupier. Alors, on a tous un alter ego, hein, Stéphane Ier pour Stéphane, ce Stéphane qui rêve qu'il devient roi des Français après la chute de la République en 2022.
Non, ça, j'ai pas mon rêve.
David aussi a un alter ego qu'il a baptisé tout simplement...
David Bonsex.
Un David plus intéressé par les chutes de Rhin que par les chutes de République. Ouais. Eh bien, Noël Godin, oui, tous, vous savez, vous dites quoi que ce soit dans ce micro, même dans une autre circonstance, ça rejaillit. Eh bien, Noël Godin, lui... pour alter ego, Georges Gloupier, un agitateur burlesque engagé qui fait peu de cas du problème du gaspillage alimentaire puisque sa raison de vivre est d'entarter les cons. Vous me direz comment fait-il ? Car pour entarter les cons, encore faut-il déjà les reconnaître.
Jean-Noël, Harry Mathieu qui nous reçoit des
brillants. Stéphane, pas de nom. Non, c'est très dur de détecter un con à coup sûr, d'autant que certains sont rusés et se cachent.
Je suis peut-être teubé, mais personne ne peut le prouver.
Alors, Noël Godin, il a un truc. Il cible toutes les personnalités publiques dont il estime que leur notoriété leur est montée à la tête. Vous avez compris, ça fait du monde. Le geste en lui-même n'est techniquement pas compliqué. Il surgit et applique une tarte à la crème en pleine poire. Pourquoi, sachant que c'est toujours le même geste, ça nous fait toujours rire ? C'est la loi éternelle dite du coussin péteur. Pourquoi un bruit biologique, lorsqu'il intervient dans une circonstance particulière, comme par exemple un moment solennel, nous fait rire bêtement ? C'est comme ça, c'est inexplicable, mais ça ne rate jamais.
Vous décrivez son livre « Mes saisons en enfer » où elle raconte ses pires voyages. Pardon. Vous décrivez...
Sacré Stéphane ! sacré Stéphane. Ouais, on a rajouté un petit.
Oui, vous avez rajouté
oui,
un
oui,
rôle.
Mais il y avait eu un petit quand même. Alors,
oui, j'avais eu un.
Oui, un petit. Oui.
J'ai repris ma respiration.
Mais voilà, vous avez repris votre respiration.
Et vous avez rajouté un rôle.
Oui.
C'est de l'escroquerie sonore.
Mais vous voulez savoir la vérité ?
Oui.
Ça, c'est la version soft parce que on parlait de coussin pétard tout à l'heure et Sébastien Bordonnat avait très porté là-dessus et il me fait toujours des petits montages où il intervient un petit bruit comme ça et je lui dis à chaque fois non, ce n'est pas digne de notre émission. Est-ce que vous avez déjà été entarté, Stéphane, vous ?
Jamais.
Ça ne m'étonne pas, car Noël Godin ne vise que ceux qu'il appelle les vaniteux. Et il est fidèle à ses principes lorsqu'il accepte de recevoir le Grand Prix de l'humour noir en 95 et celui du rire de la résistance en 2013. Noël Godin, qui déteste les honneurs, s'auto-entarte. Il y a évidemment tout un rituel autour de l'entartage. D'abord, il crie « gloup gloup », puis il lance son cri de guerre. « Entartons, entartons, les pompeux cornichons ». L'acte est burlesque, mais attention, jamais gratuit. Chaque entarté l'a amplement mérité, en tout cas selon la grille de lecture du gloupier. Le premier coup d'éclat de l'entarteur remonte à maintenant plus de 20 ans, quand il réussit à entarter l'homme le plus riche du monde, Bill Gates. Un attentat pâtissier d'une complexité logistique et humaine hors norme, dont la préparation est digne d'une mission des Navy Seals, à la différence près que Noël, lui, ne s'interdit pas de boire pendant le service. L'affaire étant désormais déclassifiée, il raconte, je cite... Comment on s'est préparé, bon je fais l'accent belge mal mais je le fais, comment on s'est préparé à faire face aux gardes du corps ? Eh bien ma foi, on a bu de bonnes bières avant d'aller au casse-pipe. Bill Gates sera le premier d'une longue et prestigieuse, quoique éclectique série. Jean-Luc Godard, Marguerite Duras, Maurice Béjart, Patrick Bruel, Benjamin Castaldi, Doc Gynéco, Jean-Pierre Elkabbach, Patrick Poivre d'Arvor, Nicolas Sarkozy, un ministre des Finances hollandais, un premier ministre australien, polonais, irlandais, québécois, l'ex-chancelier Helmut Kohl, des pontes du FMI et de la Banque mondiale, le PDG de Monsanto et même Stéphane, au sacrilège ultime, le roi de Suède.
Oh non.
Oui, mais Noël a un chouchou. Bernard-Henri Lévy. 8 en tartage. Et peut-être la plus susceptible de toutes ses cibles, la moins réceptive à l'humour belge, ceci expliquant peut-être cela. À chaque fois, BHL ajoute au comique de l'entartage une réaction digne des meilleures éructations de Michel Serrault dans La Cage aux Folles, donnant des petits coups de poing nerveux au hasard dans le vide sans jamais toucher le responsable, puisque la chantilly l'empêche de voir quoi que ce soit. Noël l'aime tellement qu'il déclare « À vrai dire, quand il ne sera plus là, je serai désemparé ». Une fois, à l'aéroport de Nice, c'est la doublette. Une balle perdue de chantilly touche également Ariel Dombal, son épouse. Là, c'en est trop pour le philosophe qui saute au cou de Noël Godin et l'étrangle pendant qu'Ariel le roue de coups de sa kermesse. Le gloupier est coincé, lui qui s'est donné pour règle de ne jamais répondre au coup. Son obsession BHLienne, Noël l'explique ainsi. Il restera toujours pour nous la tête à tarte par excellence. C'est l'incarnation du pouvoir dans toute son horreur et nous avons le poil particulièrement hérissé par son arrogance nombrilesque. Il se prend tragiquement au sérieux et de plus en plus influent et absolument antipathique. C'est en 1968 que le jeune Noël, membre du courant dadaïsto-situationniste, que vous connaissez évidemment bien sûr, et journaliste à Ciné Mensuel, il se lance dans l'entartage amateur, suscitant des réactions que nous qualifierons de diverses. Quand il entarte le cinéaste Robert Bresson, c'est son ami Marguerite Duras en personne qui le venge en entartant à son tour Noël Godin au détour d'une terrasse parisienne. Noël impassible aura cette magnifique répartie. « Madame, je préfère votre pâtisserie à votre littérature.
» C'est drôle.
Quand il s'en prend à Godard, eh bien, le réalisateur crie au génie. Il dit « C'est le cinéma muet qui rattrape mon cinéma. » D'autres victimes sont hélas moins sensibles au surréalisme pâtissier, comme Jean-Pierre Chevènement, qui lui porte carrément plainte après son entartage au Salon du Livre en 2002. Les juges estimeront qu'une tarte à la crème ne peut pas être considérée comme une arme par destination, mais ils condamneront tout de même le gloupier, qui pour couvrir ses frais d'avocat, organisera une légendaire gloup-gloup party dans une boîte bruxelloise. Plus de 1000 personnes viendront le soutenir et les cadeaux des stars présentes seront mis aux enchères. C'est ainsi, on peut le dire, grâce à une superbe petite culotte usagée offerte par l'IO, que Noël Godin pourra payer ses avocats. Mais alors, au fait, il y a quoi dans les tartes à la crème de Noël ? Normalement, nous les achetons chez un tout petit pâtissier artisanal, mais parfois c'est plus compliqué. Hein, lorsqu'il y a des fouilles à l'entrée, dès lors, c'est fond de tarte dans les culottes et bombe chantilly pour confectionner la tarte au dernier moment. Une bonne pâte brisée conservée à température ambiante dans le slip kangourou de Noël, bien calé entre le testicule gauche et le prépuce.
Bon appétit, bien sûr.
Son rêve pour 2022, ajouter Macron et tous les candidats à la présidentielle française à son tableau de chasse. Sa mère lui a mis une seule limite et il s'y tiendra. Pas touche au pape. Qui pourrait d'entarter vous, Stéphane ?
Marie-Ange Nardi.
Mais c'est gratuit, c'est d'une gravité.
Mais non,
c'est les pourvois.
J'avais dit des ans en parlant d'autre chose. Vous avez gardé le son.
C'est vrai.
Mais c'est injuste.
Est-ce qu'il y en a un que vous entarteriez vraiment, là ?
Des gens qui se prennent au sérieux en ce moment en politique,
il y en a quelques-uns,
pas mal,
hein, il y en a pas mal.
On
oui.
voit sur les plateaux en permanence terrorés.
C'est oui. bon, alors on voit qui.
Moi j'ai toujours trouvé ça quand même un peu. Enfin, c'est terriblement humiliant, je trouve. Oui. Un petit peu. Ouais.
Ah, vous êtes choqué, vous, par l'Antarcteur?
C'est chiant, c'est putain, c'est, on, dans toutes les caméras, c'est très très humiliant. Donc je trouve ça un peu violent. Après, peut-être qu'il le mérite, hein, j'en sais rien. Mais...
Ah, on sent
et
que...
donc le premier entarté, c'était Robert Bill... Bresson.
Non, c'est... Ah oui, non, le premier connu, premier très connu international, oui, oui. C'est Bill Gates, c'est ça qui a lancé le phénomène. Mais oui, il y a eu. Et puis c'est marrant, Marguerite Duras qui l'entarte à son tour, oui, et tout ça. Drôle. C'est des trucs de folie quand même. Ouais.
Mais merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Notez qu'on n'a même pas besoin de leur dire au revoir, ils se foutent pas mal des convenances, ils sont anarchistes. Un peu comme nos deux chroniqueurs ici présents, qui chaque jour remontent le temps jusqu'aux origines de ce qui fait notre quotidien. Des rillettes de thon au tigre tamoul. Olivier, c'est notre spécial Brassens aujourd'hui. Ouais. Forcément, vous.
Un hommage culinaire à Georges Brassens, qu'il aurait ou qu'il a certainement beaucoup aimé, la tielle sétoise. Quel est donc ce plat ?
Mais c'est un ragoût, je crois.
De quoi ?
Le connaître. Un ragoût de poulpe, bien sûr. Hein, bien sûr. Et tout de suite, David Castello-Lopez remonte aux origines du service militaire.
Je vous ai déjà raconté à ce micro que quand j'étais petit, j'étais terrorisé à l'idée de faire mon service militaire. Mes parents, ils m'avaient dit, en gros, il y a une épreuve chacun. Les femmes doivent accoucher, les hommes doivent faire leur service militaire. Et surtout, ce qui me terrorisait, c'était pas de me lever à 5h du matin et de me faire un peu crier dessus. Non, ce qui me terrorisait, c'est qu'on m'avait dit que si jamais la France était en guerre au moment où j'avais l'âge de faire mon service militaire, eh bien je me retrouverais à devoir faire la guerre et donc à risquer de me faire tuer. Et autant j'avais pas grand chose contre le fait de me lever à 5h du matin et de faire mon lit au carré, mais j'avais vraiment aucune envie de décéder. Et vraiment, et c'était pour ça que ça me terrorisait complètement. Et puis à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à sentir que ce serait peu probable en fait, que la France soit en guerre quand j'aurai 19 ans, et deux, c'est vrai que même si elle était en guerre, je me disais qu'elle enverrait probablement pas des bidasses se faire tirer dessus en 1993, vous voyez. Et puis, de toute façon, pour finir, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 1996, j'avais 14 ans, vous en aviez 13, eh bien Jacques Chirac, il a mis fin au service militaire en France. Mais alors, d'où ça vient, c'est ce service militaire, instrument républicain de brassage social? Alors bien sûr, il y a eu plein de moments dans l'histoire où des gens ont été obligés par un gouvernement à prendre les armes, mais le premier service militaire moderne, au sens où on l'entend, c'est-à-dire un service militaire qui est inséparable de la citoyenneté, eh bien c'est encore une fois la Révolution française qui l'a inventé. Petite question facile, vraiment très facile, là, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 1793? On a guillotiné Louis XVI, et là les monarchies d'Europe, en gros, elles se sont coalisées pour aller casser la gueule à cette petite conne de France qui avait tué son roi. Et là la France était dans le pétrin, et donc le gouvernement a organisé ce qui s'est appelé la levée en masse. Tous les garçons qui avaient entre 18 et 25 ans et qui étaient soit célibataires, soit veufs sans enfants, ils étaient susceptibles d'être appelés sous les drapeaux. Et ça a plutôt bien marché, parce qu'à la fin, les Français, ils ont gagné. Ils ont gagné aussi parce qu'ils avaient des généraux un peu forts, hein, comme par exemple Napoléon Bonaparte. Vous voyez, c'est peut-être partie des généraux de cette époque-là. Et puis, en 1798, on a instauré ce qui est vraiment dans les faits la première version du service militaire qu'on connaît, avec la loi Jourdan d'Elbrel qui contient cette phrase super célèbre: tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. Bon, on note qu'il écrit tout français et non pas tout.e, français.e. Et oui, parce que ça ne concernait que les garçons, et ça n'a concerné jusqu'à la fin que les garçons. Les filles, historiquement, ont le droit d'être citoyennes sans faire leur service militaire. C'est peut-être un rare exemple de privilège féminin, même si certaines femmes répondent que de toute façon, la guerre, c'est un truc de connard de mec. Et donc, c'est bien normal qu'il n'y ait que les connards de mec qui soient obligés de la faire. Mais il y a encore une grosse différence à ce moment-là, c'est que tout le monde peut potentiellement être appelé, mais tout le monde ne l'est pas. Et tout au long du 19e siècle, c'est encore le cas. Le plus souvent, on est choisi par tirage au sort. Et c'est-à-dire qu'on vous êtes là, vous tirez le mauvais numéro et vous devez faire votre service. Et en plus, ce qui était très triste, c'est que les appelés pouvaient se faire remplacer par d'autres moyennant finances. Et ça, c'est dégueulasse.
Les riches payaient pour...
Mais voilà, les fils de bourgeois, ils payaient un pauvre pour aller se faire tuer à leur place, ce qui est très triste. Et finalement, c'est qu'en 1905 que le vrai service militaire qu'on connaît, il a été mis en place. À partir de 1905, 100% des garçons sont obligés de donner une période de leur vie à l'armée. Une seule exception, ceux qui ont des problèmes de santé. Alors, des problèmes de santé au sens large. Hein. Olivier Pouls, par exemple, il a été exempté parce qu'il toussotait. Vous voyez ce qui est pas une...
Alors, moi, j'ai été exempté en Belgique. Mais époque à laquelle le service militaire existait, il n'existe plus, évidemment.
Parce que tu toussais. T'es arrivé en toussant, t'as dit...
J'étais un peu asthmatique.
Oh, ouais, voilà,
ça t'a passé depuis.
Il y a les pieds plats.
Et les pieds plats aussi.
de fou d'avoir les pieds plats, c'est bizarre.
On ne peut pas courir correctement. Courir, oui. Et puis il y avait les fameux réformés P4 qui se faisaient passer pour des gnignins comme ça. Voilà. Alors le service militaire en 1905, il durait 2 ans.
Ah oui.
C'est passé à 3 ans en 1913, avec en plus le fait que chaque année, après avoir fini votre service, vous deviez passer 4 semaines encore à faire des exercices militaires.
Ça existe, ce service en Suisse.
En Suisse, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas suisse. Oui, parce que j'aurais pu avoir la double nationalité. À 18 ans, on m'a demandé est-ce que vous voulez la double nationalité. J'ai dit ah ouais, c'est intéressant la double nationalité, j'imagine. Très bien, maintenant il faut faire vos périodes tous les ans. J'ai dit mes périodes.
Mais jusqu'à quel âge?
Service militaire jusqu'à 40 ans. Mon
notamment
en Suisse, parfois il n'était pas là.
L'année prochaine, vous pouvez redevenir suisse.
Mais j'avais pas pensé, Stéphane.
Quelle excellente idée.
L'année prochaine, je demande la double nationalité.
Moi, finalement, donc j'ai pas pu faire mon service militaire. On m'a proposé de faire un service militaire volontaire. Mais ça veut dire que je me serais retrouvé qu'avec des fans de l'armée uniquement. Et donc, autant j'aime bien les gens en général, autant vraiment des gens qui sont fans de l'armée, peut-être qu'un petit peu moins. Donc voilà, donc j'ai renoncé à faire ça.
Mais vous avez fait la journée d'appel citoyen.
J'ai fait la JAPD, oui, pour savoir si je savais lire. En gros, c'est ça.
C'était pas très dur.
Mais ça concernait les filles aussi, tout le monde.
Tout le monde. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion. Et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Olivier Pouls est avec nous dans cette spéciale Georges Brassens pour fêter les 100 ans de sa naissance. Olivier, vous nous parlez d'un plat qui vient de Sète.
Oui, et c'est une demande aussi de l'un de nos réalisateurs, Philippe Abardel, qui a une passion pour ce plat et qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu pourrais nous parler de la tielle sétoise ou de la tielle de Sète ?» Il y a une petite culture gastronomique quand même, parce que c'est pas un plat qui est très connu, très régional. Oui. Alors, le nom du plat, comme pour le bake-off, ou la paella ou la tagine, il vient du contenant. Le contenant a donné son nom au contenu. Donc, c'est le moule qui s'appelle la tielle et qui ensuite a donné son nom à cette spécialité. Alors, pour préparer une bonne tielle, il vous faut un poufre. Un poufre,
c'est un poufre. Alors, je sais ce que c'est, mais
un poufre. Alors, une poufre aussi.
Eh bien, à Sète, on appelle le poulpe le poufre.
Ah oui.
Donc voilà, c'est en fait une tielle de poufre. Et alors, évidemment, une pâte dont on va parler dans un instant. Il faut savoir que c'est une recette qui provient d'Italie, qui était ramenée au 19e siècle par des immigrés d'une petite ville qui s'appelle Borgo de Gaeta. Et eux-mêmes se sont inspirés d'une recette qui était espagnole. Alors ça provient à un moment où les Italiens commençaient à s'intéresser à la pizza aussi, donc c'est une base de pâte à pain. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que beaucoup d'Espagnols qui étaient dans le coin prenaient une pâte à pizza et ils garnissaient, ils remettaient une autre pâte par-dessus. Et ça avait un avantage, c'est que ça laissait les ingrédients au milieu plus moelleux, et puis surtout, ça permettait de le conserver
à
plus longtemps.
À l'étouffer, en fait,
ça cuit à l'étouffer, donc ça garde de l'humidité, et puis surtout, ça se conserve plus longtemps, ça ne sèche pas. Et donc, cette recette est arrivée avec ces immigrés italiens qui, là-bas, dans la ville de Sète, se sont mis à cuisiner du poulpe. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'une certaine Adrienne Verducci, femme d'un immigré italien, était poissonnière et qu'elle avait, par la force des choses, du poulpe. Donc elle s'est associée avec le boulanger du coin, qui lui fournissait la pâte et le four, et elle faisait ces espèces de petites tartes, en fait, qui sont recouvertes. Ça pourrait faire penser un peu à une calzone dans l'esprit, vous voyez. C'était au départ un plat de pêcheurs, un plat de pauvres, que la grande société sétoise ne regardait pas beaucoup. Mais, petit à petit, elle va réussir à les convaincre. Ils vont goûter ça, et ça va devenir un vrai phénomène. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des descendants de cette famille qui continuent à perpétuer la tradition de cette recette qui, c'est vrai, ne s'est pas beaucoup exportée. J'en connais pas à Paris, alors peut-être qu'il y en a, mais dans d'autres villes, il y a assez peu de tielles, ou en tout cas de plats inspirés de cette tielle sétoise, dont je vais quand même vous donner un peu la recette, enfin même complètement, parce que c'est pas très difficile à faire. Alors il faut faire une pâte à pain. La particularité, c'est que cette pâte à pain, elle est constituée de farine, bien sûr, d'eau, mais aussi d'un petit peu de vin blanc. Donc on remplace une partie de l'eau par du vin blanc. Je vous rassure, au moment de la cuisson, l'alcool va s'évaporer, mais ça va donner un petit peu de goût probablement. Il y a un petit peu d'huile d'olive aussi dans cette pâte à pain. Et certains rajoutent une petite pointe de paprika, ce qui va la colorer, lui donner une couleur légèrement orange. Et c'est vrai, quand on garde cette tielle, elles ont souvent une couleur orangée. Et à l'intérieur, on la farcit avec un ragoût de poulpe. Alors vous achetez du poulpe, si vous l'achetez frais chez votre poissonnier, il faut le congeler.
Pourquoi ?
Parce que ça va casser les fibres du poulpe, sinon le poulpe, il va être trop caoutchouteux, trop dur. Il y a deux techniques pour casser les fibres d'un poulpe. Soit c'est le congélateur, soit
Soit on le frappe, bah, voilà. on le bat.
Une batte de baseball et on y va.
Mais il est déjà mort.
Bah oui, il est déjà mort. Mais, monsieur,
mais il faut l'attendrir.
Il faut l'attendrir. Oui, et le congélateur, ça marche bien.
Vous savez, quand vous faites une Wiener Schnitzel aussi, il faut attendrir, il faut taper votre escalope.
Et la bonne technique, c'est donc de le congeler. Après, on fait un petit ragoût avec un petit oignon émincé, un peu d'ail, quelques olives, le poulpe évidemment. De la tomate, alors on peut y aller, concassée de tomate, une petite goutte de vin blanc, des épices, parce qu'il faut que ce soit un petit peu relevé. Moi, je mets de la harissa, par exemple. Et on laisse mijoter tout ça pendant 45-50 minutes, de manière à vraiment bien concentrer les saveurs et d'avoir une texture qui soit plus trop liquide. Et puis, on va farcir dans un plat qui ressemble à une espèce de plat à gâteau qu'on appelle la tielle. Mmh. On va mettre une couche de pâte à pain. On va mettre de la garniture, on remet une couche par-dessus, on soude les bords et on cuit dans un four très chaud à 220 degrés pendant 30-35 minutes, de manière à ce que la croûte devienne bien croustillante et qu'on ait donc ce contraste après d'une croûte de pain croustillante fourrée à l'intérieur de ce ragoût de poulpe moelleux et délicieux.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et pour terminer, une seule recette. Convoquez vos neurones, on va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe. Une question pour Olivier, une autre pour David, une troisième pour Mathieu. En cas d'égalité, une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner où il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Alors, Olivier Pouls, la première question est pour vous. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré après 27 ans de prison. En 2020, 30 ans après, Asha Mandela, sa petite fille, entre à la chambre basse du Parlement de l'Afrique du Sud. Vrai ou faux?
Pourtant, tu connais l'Afrique du Sud.
Oui, surtout les vins. Je connais bien les vins. Je suis allé visiter la cellule sur Robben Island, où il avait été détenu. Moi, je dirais que c'est faux.
Vous avez un instinct quand même qui vous porte.
Quand même.
Asha Mandela n'a aucun lien de parenté avec Nelson Mandela.
Non, parce que si ça avait été sa petite fille, effectivement, on en aurait beaucoup parlé. Ouais.
Elle a juste le record de la femme ayant les plus longs dreadlocks, 5 mètres. C'est tout. Voilà. Alors, David.
Ça peut être très pratique.
Alexandre le Grand avait un œil noir et un œil bleu-vert. C'est vrai ou c'est faux?
Ah, les yeux verront. Un œil noir et un œil bleu-vert. Mais j'en sais rien. C'est vraiment...
Ça fait... Un supplice, hein.
Je dirais non, c'est faux. Non, c'est vrai.
Vous êtes de moins en moins inspiré,
Ouais, j'en sais rien.
Parce que quand on ne le sait pas, il faut de temps en temps aller...
C'était une chance sur deux.
Une chance sur deux.
Ouais.
On le sait d'ailleurs, c'était vrai. Grâce aux écrits de l'époque, il était surnommé Dikoros, qui signifie deux pupilles. Ça Mathieu marche. Noël, c'est pour vous. Mm-hmm. Durant la Grèce antique, la Cyanea Capilata était des espaces où l'on pouvait parler philosophie et amélioration de la vie au sein de la cité, tout en se faisant couper les cheveux. C'est vrai ou c'est faux?
Alors, redites-moi le terme.
Cyanea Capilata.
Alors, je n'en sais rien, mais même en raisonnant, je n'en sais toujours rien. C'est vraiment décevant, intellectuellement parlant, c'est vraiment lamentable. Parce que Cyanea, il faudrait connaître l'origine étymologique de... Et Capilata, est-ce que c'est un faux ami? C'est un piège, en fait, ça ne veut pas du tout dire cheveux. Moi, je dirais non, je dirais faux.
Bravo. Il a vraiment de la
chance. Il n'est pas tombé dans le piège.
La réflexion.
La Cyanea Capilata est une très grande méduse. Ses tentacules peuvent faire jusqu'à 18 mètres de long.
Voilà, je me disais que j'en avais entendu parler quelque part.
On l'avait mangé la semaine dernière.
Question.
Bon, je suis humilié une fois de plus.
Vous mangez de la méduse?
Éliminé dès le premier tour.
À part les thons, personne ne mange de méduse.
Non.
Et vous n'êtes pas des thons. Alors, la question qui les partage.
La vie est plus proche.
Entre Olivier Pouls et Mathieu Noël. Oui. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Le 22 juillet 1990, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais c'était la dernière éclipse solaire totale en France. En quelle année aura lieu la prochaine?
En France, hein.
Parce qu'il y en a dans
d'autres endroits du monde.
Il me semblait qu'il y avait eu le 11 août 1999 aussi.
Oui, moi
éclipse
je trouve que
totale.
Bah, c'est quand on disait qu'il fallait aller à Fécamp. À Fécamp, ouais. On voyait parfaitement l'éclipse.
Éclipse solaire totale.
Alors, moi, je vais dire.
Alors, Olivier, quelle est votre réponse ?
2056.
2056, et vous ?
2036.
Eh bien, c'est Olivier qui gagne.
C'est dans longtemps.
C'est 2081, hein, la prochaine.
Vous êtes sûr ? Ouais. Dans si longtemps, ça veut dire qu'on sera mort ?
Oui, parce qu'en fait. J'aurai 118 ans.
Je m'en souviens très bien, j'avais calculé quel âge j'aurais. Puis j'aurais peut-être une petite chance, quand même.
Bravo, Olivier.
Bravo, Olivier. Belle victoire.
J'en reviens de loin.
Vous revenez, en revanche, c'est inquiétant pour David. Hein. Mmh. Depuis quelques temps, David.
Il est à la ramasse. Hein.
Oui,
J'ai commencé l'année de façon très très brillante. Et là,
c'est terrible. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Un numéro fort en émotion, puisque Stéphane avait toujours rêvé d'être anarchiste l'espace de 2 heures. Est-ce que 2 heures, ça vous a suffi, Stéphane ? Je pense que là, ça va. Vous avez eu votre dose d'anarchisme ?
Oui, je suis très content.
Bon, ça n'ira pas plus loin.
On est tous un peu anarchistes,
oui,
hein, vous savez.
Plus ou moins. Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane ?
Oh, vous savez ça, on ne peut pas le savoir. La vie est pleine de surprises. Ça dépend de qui on va croiser dans la rue.
Mais je sens que cette expérience d'anarchisme vous a un peu traumatisé.
Alors, à dimanche, Mathieu. À dimanche, les amis.
À dimanche, Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.